Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro de 24 notes secondes pour une nouvelle émission qui ne manquera pas de vous rappeler que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film. Évidemment, nos fidèles le savent, cet art aussi particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis maintenant largement plus d'un siècle. Alors, parfois de manière pertinente, parfois de manière impertinente, et bien dans 24 notes secondes, on accueille les deux. Et ce jour, dans 24 notes secondes, nous allons consacrer notre émission à un compositeur américain, né en 1924, décédé en 2008, injustement méconnu, Leonard Rosenman, qui a pourtant signé près de 130 partitions et autres, et qui est né à Brooklyn, à New York, donc le All American Compositor s'il en est. Comme il est né en 1924, eh bien, quelque part vers 1940, il avait l'âge d'aller faire la guerre, et c'est ce qu'il fit, puisqu'il fut en service dans le Pacifique, même si ma petite fiche ne précise pas exactement quels y furent ses titres de gloire. En tout cas, son principal titre de gloire est dans les guerres et avec les soldats. C'est le mieux, c'est qu'il est revenu vivant, bien évidemment, pour enchaîner avec des études de composition musicale sous la direction, entre autres, de rien moins qu'Arnold Schoenberg, l'un des tenants du dodécaphonisme, une pratique musicale que je n'ai toujours pas exactement comprise. Et le début de la carrière cinématographique, pardonnez-moi, de Leonard Rosenman, eh bien, elle se fera en fanfare. D'habitude, les compositeurs débutent avec des films mineurs, des séries B, des films d'épouvante, des westerns, que sais-je. Pour Leonard Rosenman, rien de tout ça, puisque la même année 1955, qui voit ses débuts en tant que compositeur, eh bien, il signe trois partitions de trois films majeurs. Le premier, un film de Vincente Minnelli, La toile d'araignée, The Cobweb in English, qui est une des variantes sur la théorie psychanalytique, comme le cinéma hollywoodien nous en réserva beaucoup dans les années 40 et 50. Et les deux autres bandes originales, eh bien, sont rien moins que les deux bandes originales des deux premiers films avec James Dean. Et oui, l'idole fulgurante du cinéma américain de 1955 à sa mort tragique et évidemment prématurée, eh bien, Leonard Rosenman signa la bande originale d'une part d'East of Eden, à l'est d'Eden, un film d'il y a 15 ans, d'autre part de Rebel Without a Cause, La fureur de vivre en français, un film de Nicolas Ray, tout simplement, dit ma petite fiche, parce que Leonard Rosenman était en cohabitation avec James Dean, je ne saurais vous en dire plus, auquel il donnait des leçons de piano et qu'il introduisit, James Dean, auprès d'Elia Kazan, le réalisateur d'À l'Est des Têtes. Voilà, j'en ai déjà dit beaucoup pour une première approche. On va justement écouter un extrait de la bande originale de ce film, À l'Est des Têtes, un film d'Elia Kazan tourné en 1954, sorti en 1955 dans 24 notes secondes. Thank you. Un extrait de la magnifique élégiaque Si Americana, partition de Leonard Rosenman pour le premier film de James Dean à l'Est d'Éden, après un roman de John Steinbeck. Alors le tournage de ce film et la façon dont James Dean a été découvert, eh bien, relève de la légende. Il se trouve qu'il y a 15 ans, en 1954, en février, le 8 février 1954, si vous voulez tout savoir, assiste à Broadway à la représentation d'une adaptation au théâtre de L'Immoraliste d'André Gide, et avec dans le personnage principal, eh bien, James Dean. James Dean qui rencontre donc un triomphe dans cette pièce. À l'époque, Elia Kazan est en train de préparer donc à l'Est d'Éden, qui sera un film important pour lui, puisque le premier en couleur et le premier en cinémascope, le format à la mode dans ces années-là. Il hésite à engager Paul Newman, qui n'est pas encore non plus la super vedette qu'il est devenu après, et jusqu'au dernier moment, il hésitera entre Paul Newman, Marlon Brando et James Dean pour finalement choisir ô combien de façon pertinente James Dean, et pour un tournage qui sera difficile puisque James Dean, qui est un acteur à l'instinct et non pas du tout un acteur professionnel avec des codes et d'éthique, eh bien, est opposé dans ce film à Raymond Massey, un acteur bien oublié qui lui est de la vieille école. Les deux hommes se haïssent cordialement et ça tombe bien puisque en fait dans le film il joue le père et le fils qui se haïssent aussi. Du coup, Elia Kazan utilise cette tension entre les personnes pour en faire une tension entre les personnages. Et cinématographiquement, c'est très très réussi. Elia Kazan indique que, nous avons commencé à croire que quelque chose d'exceptionnel se passait vers les trois quarts du film, du tournage du film. Dean était tellement bon et de fait, effectivement, dès la sortie d'À l'Est d'Éden, eh bien, James Dean devient une superstar. Le reste avec La Fureur de Vivre de Nicolas Ray, un film à mon avis bien surestimé. Et le devient encore plus avec Géant, aux côtés d'Elizabeth Taylor, pour lequel d'ailleurs il essaie aussi d'imposer Leonard Rosenman comme compositeur, mais George Stevens, le réalisateur de Géant, lui préfère le plus bankable Dimitri Tiomkin. En tout cas pour Leonard Rosenman, eh bien c'est le début en fanfare d'une longue carrière. Hélas, son ami décède, comme l'on sait, au volant de sa Porsche, dont le modèle m'échappe, quelques mois plus tard et quelque part dans le désert, pour devenir donc une icône du cinéma avec seulement 3 films à son actif. Quant à Leonard Rosenman, eh bien, il commence vaillamment la carrière de tout compositeur de musique de film américain qui consiste à enchaîner 2, 3, voire 4 partitions toutes les années. Et on va maintenant écouter l'extrait d'une autre bande originale signée par un grand réalisateur hollywoodien, George Cukor. Un film intitulé The Chapman Report, en français Les Liaisons Coupables. J'aime bien d'ailleurs la transition entre la neutralité du titre américain et le côté un peu coquin du titre français. Il faut dire que ce film était l'évocation en parallèle de la vie de 4 femmes très différentes, avec des histoires amoureuses et sexuelles. Elles aussi très différentes, en l'espèce Shelley Winters, Jane Fonda, Claire Bloom et Glynis Jones, des physiques et des personnalités très différentes. George Cukor, c'est bien connu, était un cinéaste de femmes et donc par conséquent, il était bienvenu pour accompagner cette adaptation d'un roman d'Irwin Wallace qui s'inspirait non pas du Chapman Report, qui était une façon déguisée de faire allusion au fameux rapport Kinsey qui, dans les années 50, décortiqua la vie sexuelle, prétendument en tout cas, la vie sexuelle des Américains et des Américaines, qui fit scandale. Nous étions dans les années 50, 60. Allez, on écoute un extrait de cette bande originale signée Leonard Rosenman, Les Liaisons Coupables, mais dans 24 notes secondes. Thank you. Voilà, un extrait très jazzy de la partition des Liaisons coupables, un film de George Cukor, une musique de Leonard Rosenman. J'ai oublié de vous préciser, mais en fait, je ne l'avais pas noté non plus que pour la première de ces partitions, The Cobweb déjà cité, La Toile d'araignée, eh bien, Leonard Rosenman employa justement cette fameuse méthode, appelons-la comme ça, dodécaphonique enseignée par Arnold Schoenberg, qui, je dois l'avouer, produit chez moi des résultats musicalement très contrastés. Et les partitions sont bien rares à être accompagnées justement de l'application de cette théorie. On peut citer parmi les plus remarquables celle de mon chéri, les fidèles de 24 notes secondes le savent, Jerry Goldsmith, qui utilisa ces procédés pour la partition majeure de Planet of the Apes, la planète des singes. La première, l'unique, la vraie version, signée Franklin G. Schaffner, quelque part en 1967. Et si je cite cela, eh bien c'est parce que dans les années qui suivirent cette partition de The Chapman Report, Leonard Rosenman signa les musiques de deux des suites de ce film, La planète des singes. On vit en 1970 Beneath the Planet of the Apes, je ne me souviens plus exactement du titre français, et en 1973, La bataille pour la planète des singes, ou de la planète des singes. Là encore, je ne me souviens pas du titre français. On pourra aussi citer, parmi les partitions remarquables, celle de Fantastique Voyage, Le Voyage Fantastique, une petite merveille signée Richard Fleischer, tournée en 1966, où l'on voyait un vaisseau miniaturisé pour entrer dans un corps humain afin d'y détruire un caillot sanguin quelque part dans le cerveau. Et on voyait Raquel Welch tout en blanc en train de lutter avec des globules rouges qui a vu ça quelque part en 1966, ne s'en est jamais, mais alors jamais remis. Parmi les autres partitions remarquables de Leonard Rosenman, et après on reviendra à la musique, eh bien, on peut aussi citer que le seul Oscar que le compositeur obtint, ce fut aussi bizarre que cela paraisse, pour un film dont il ne signa pas la musique, mais seulement l'adaptation musicale, en l'espèce celle de, et là encore total respect, du Barry Lyndon de Stanley Kubrick, tourné en 1975, déjà. C'est à peine croyable. Barry Lyndon, Stanley Kubrick, pardonnez-moi, dont on sait qu'il utilisait rarement des compositions originales et qu'il avait rejeté notamment la partition d'Alex North pour 2001 Odyssée de l'espace. Et là encore, eh bien dans Barry Lyndon, il utilisait, arrangé, adapté des musiques classiques. Eh bien, Leonard Rosenman reçut un Oscar qui dut lui laisser un sentiment un peu amer pour cette partition. On va revenir à la musique en écoutant ce qui sera sans doute pour beaucoup une curiosité. La musique d'un film tourné en 1978 et intitulé Le Seigneur des Anneaux. Et oui, bien avant la trilogie Fleuve de Peter Jackson et les musiques elles aussi Fleuve de Howard Shore, eh bien, on s'était essayé à adapter à l'écran ce chef-d'œuvre de la littérature signé J.R.R. Tolkien. Chef-d'œuvre de la littérature étant certainement la banalité la plus improbable que j'ai pu prononcer depuis un siècle dans 24 notes secondes. Mais bon, c'est tout ce que j'avais sous la main. Un film signé Ralph Bakshi et qui présentait entre autres originalité eh bien le fait d'être un dessin animé. Et oui, c'était une idée peut-être assez originale pour adapter Le Seigneur des Anneaux. Ma foi, une idée assez originale mais peu convaincante puisque le premier film adaptait le premier livre. À qui vais-je apprendre qu'il y a trois opus ? Et hélas, le succès commercial ne fut pas suffisamment au rendez-vous pour que les deux autres films voient le jour. Après, il fallut attendre Peter Jackson, Winnie, Widdy, Wiki. Allez, on écoute un extrait signé Leonard Rosenman. Je vais y arriver, c'est sûr, de cette bande originale The Lord of the Rings dans 24 notes secondes. Voilà, un large extrait d'une curiosité, la partition de Leonard Rosenman pour le film de Ralph Bakshi, tourné en 1980, dit ma petite fiche, Le Seigneur des Anneaux. Alors, Le Seigneur des Anneaux qui a été écrit, là encore, à qui l'apprendrais-je, par Tolkien entre 1954 et 1955, ou plus exactement, il fut publié entre 1954 et 1955, après 14 ans de rédaction. Et bien évidemment, ce roman avait intéressé de nombreux réalisateurs. On a cité notamment Stanley Kubrick, ah, ça aurait été bien, John Boorman, ah, ça aurait été bien aussi, et Walt Disney, comme quoi on a vraiment échappé au pire. Et dans un premier temps, eh bien, c'est Ralph Bakshi qui était tout auréolé du succès notamment de Fritz the Cat, le premier dessin animé interdit aux moins de 18 ans. Si, si, je vous le recommande. C'était Ralph Bakshi qui s'y était essayé, et ce qui est assez amusant, c'est qu'il avait utilisé pour ce film bien un procédé rotoscopique qui consistait d'abord à filmer de vrais acteurs et ensuite à animer le résultat. Finalement, c'est le même procédé qu'on utilise aujourd'hui en numérique, comme quoi on recycle un peu les vieilles techniques. Par contre, eh bien, le film qui avait coûté quand même 8 millions de dollars, ce qui était une somme considérable dans les années 80, eh bien, hélas, ne rencontra pas un grand succès. Pourtant, pour l'avoir vu, je vous le recommande, car visuellement, c'est une façon intéressante et différente d'aborder l'œuvre de Tolkien. Voilà, alors, ça aurait été bien court, mais hélas, on va s'achever, et évidemment, en musique, vers la fin de ce petit hommage à Leonard Rosenman. L'homme continua, évidemment, dans les années 80-90, à beaucoup composer avant d'être diagnostiqué, hélas, d'une maladie qui ressemblait à la maladie d'Alzheimer, et qui fit qu'il s'éteignit le 4 mars 2008, quelque part dans les collines de Beverly Hills. Entre-temps, il aura composé un certain nombre de musiques plus ou moins estimables. Hélas, il faut bien reconnaître, rien de comparable à ses brillants débuts avec James Dean, et desquels on pourra vraiment, pour les amateurs, ressusciter la partition de Robocop 2, qui n'était peut-être pas à l'aune de celle composée par Basil Poledouris, pardonnez-moi, pour le premier opus, mais qui n'était pas mal venu. Et on va terminer en écoutant justement la musique aussi d'une sequel, en l'espèce celle d'une série à succès encore maintenant, Star Trek qui fut au départ un feuilleton et qui ensuite fut plusieurs feuilletons et devint une série de films quelque part dans les années 80. Le premier opus était signé Jerry Goldsmith. Là, c'est le 4e opus, sauf erreur de ma part, il était question de baleine. Le tout était tourné en 1986, rien moins que par Monsieur Spock lui-même. Requiescat in pace, Leonard Nimoy. On écoute un extrait de cette bande originale. Leonard Rosenman, Star Trek 4, The Voyage Home. Et ben voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you and bye bye.